Merci d'écouter RFI, il est 7h30 à Paris, 6h30 à Niamey. Un nouveau journal consacré à l'actualité africaine avec vous, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous. Et un retour voulu triomphal par les autorités camerounaises ce matin à la une. Le retour de Paul Biya à Yaoundé après de longues semaines à l'étranger. Désormais disponible sur Internet, le projet de constitution au Gabon, le texte rendu public hier à moins d'un mois du référendum. Après son annonce de boycott pour les élections de décembre au Tchad, le parti Les Transformateurs de Succès Masra essuie à présent des critiques sur la scène politique. Les craintes des proches de Seth Kikuni en RDC, actuellement en détention avant un procès, l'opposant a perdu connaissance hier, il a dû être transféré de la prison vers un hôpital privé. Le sommet des BRICS, bien sûr, attendu aujourd'hui à Kazan en Russie. Les BRICS dans leur nouvelle mouture, 10 membres et non plus 5, dont l'Égypte et l'Éthiopie sur le continent. L'Éthiopie, justement, où nous emmènera notre dossier du jour, au Tigré, où s'est rendue une équipe médicale venue de RDC, une équipe de la fondation du docteur Mukwege qui traite les victimes de violences sexuelles. Paul Biya est donc rentré au Cameroun. Ça y est, un retour savamment orchestré par les autorités après quelques semaines d'absence, pour le moins remarquées, commentées, 7 semaines d'absence précisément. Eh bien, le chef de l'État est finalement arrivé à Yaoundé, une arrivée, elle aussi très observée naturellement, Polycarpe Samba.
Il a fallu pour les Yaoundéens de découvrir au petit matin de cette journée de lundi les rues pavoisées des affiches du chef de l'État pour se convaincre que le retour était effectivement à l'ordre du jour. Posées notamment sur les principales artères de la capitale, elles annonçaient en français et en anglais « Bon retour, Monsieur le Président ». Le RDPC parti au pouvoir a aussi pleinement joué sa partition, mobilisant des milliers de militants d'abord à l'aéroport international de Yaoundé, puis sur le long des 25 km de trajet du cortège présidentiel jusqu'au palais des Toudi, où vit et travaille Paul Biya. La télévision nationale, la CRTV, a aussi été mise à contribution pour achever de convaincre les sceptiques avec la mission de montrer aux Camerounais que leur chef d'État était bien là. Et Paul Biya, les Camerounais l'ont bien vu dans un bref échange de 5 minutes au pied de l'avion avec son secrétaire général, le ministre d'État Ferdinand Gongo. Pas de déclaration à la foule nombreuse ayant pour le déplacement de l'aéroport, encore moins aux téléspectateurs massés derrière leurs écrans de télévision. L'armée d'éditorialistes mobilisés pour commenter ce retour qui, d'après eux, vient clore un chapitre où aucune rumeur alarmante n'a été épargnée aux Camerounais. Cela suffira-t-il pour rassurer un peuple gagné ces dernières semaines par une certaine inquiétude et angoisse sur son avenir? Les jours prochains, nous le dirons. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Dans un petit peu plus de 3 semaines maintenant, les Gabonais, eux, seront appelés aux urnes pour un référendum constitutionnel le 16 novembre. Mais encore faut-il connaître le texte et son contenu avant d'aller voter. Eh bien, ceux qui le souhaitent peuvent désormais le consulter en ligne sur le portail du gouvernement et les réseaux sociaux du Conseil de transition. Le texte a en effet été rendu public hier, 173 articles au total. Pour un projet présidentialiste, François Mazet a un projet qui renforce notamment la limite des mandats.
Le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs, quelles que soient les éventuelles révisions de la Constitution. Ce dernier point, nouveau dans la version finale, renforce la demande fondamentale des acteurs politiques, la limitation du nombre de mandats et l'intangibilité de cette règle. L'article 169 prévoit en effet qu'il ne peut faire l'objet d'une révision. Autre point sujet à débat, les critères d'éligibilité sont légèrement édulcoré. Un seul parent gabonais, lui-même né gabonais, est désormais nécessaire au candidat, contre les 2 parents dans la première version. Même chose pour l'époux, qui ne doit lui aussi avoir qu'un seul parent né gabonais. Une limite est ajoutée à cet article 43, référence évidente à l'histoire du pays. Le conjoint et les descendants d'un président de la République ne peuvent se porter candidat à sa succession. Le régime est présidentiel, le chef de l'État est assisté de 2 vice-présidents. Il détient le pouvoir exécutif, peut dissoudre l'Assemblée. Les parlementaires, eux, n'ont qu'un moyen de rétorsion, la mise en accusation devant la Haute Cour de justice pour violation du serment ou haute trahison. Cette notion n'est plus définie, ce qui permet théoriquement d'en élargir les conditions d'utilisation.
Les explications de François Mazet sur la radio du Monde. Après l'annonce des transformateurs ce week-end, les réactions sur la scène politique au Tchad. Le parti de l'opposant Succès Masra, qui fut un temps premier ministre, ministre de la Transition, a annoncé qu'il boycottera les élections législatives et locales prévues le 29 décembre. Succès Masra souhaitait un report des scrutins au regard des graves inondations qui ont touché le pays. Et il souhaitait également une réforme du cadre électoral. Mais sa position se boycotte et suit des critiques. Elles viennent de toutes parts, Esdras Dikoumana, et même de l'opposition que le pouvoir qualifie comme radicale.
C'est le cas du groupe de concertation des partis politiques qui regroupe une quinzaine de farouches opposants au pouvoir tchadien. Une plateforme qui se dit surprise par la décision de l'ex-premier ministre Succès Masra et de son parti Les Transformateurs de ne pas participer aux prochaines échéances électorales. Le coordinateur d'IGCAP, Max Kemkoy.
Comment se fait-il que le même code présenté et discuté en conseil des ministres pendant qu'il était premier ministre validé par lui, il peut revenir aujourd'hui le remettre en cause et demander sa modification, c'est de faire de la zizanie politique. Et donc, c'est une reculade qui est compréhensible, mais qui ne va rien donner en ce sens que tous les Tchadiens ont compris sa position.
Mais quel pourrait être l'impact du boycott des législatives par les transformateurs, considérés comme l'un des principaux partis tchadiens? Pratiquement aucun, explique le sociologue Gondé Ladiba.
Ça ne va pas jouer sur la popularité, la légitimité des institutions en place. En réalité, qu'ils participent ou qu'ils ne participent pas, ça ne sert à rien parce qu'en réalité, ici, les gens ne prennent pas de gants par rapport à la question de légitimité. Ça se voit clairement. Et il se déroule un calendrier et qu'on se finalise le processus de transition et advienne que pourra.
Simple coïncidence ou pas, l'envoyé spécial du facilitateur de la CIAC, le président congolais Félix Tshisekedi, est arrivé en Ndjamena dimanche. L'objectif du ministre Didier Mazenga, aider le Tchad à faire atterrir en douceur la transition, dit-il.
Esdras Ndikoumana, les craintes à présent autour de l'opposant Seth Kikuni en RDC. Ses proches s'inquiètent en effet après son évacuation hier de la prison centrale de Makala vers un hôpital privé de Kinshasa, car le président du parti Piste pour l'émergence a perdu connaissance, lui qui a été arrêté le 2 septembre dernier par la puissante Agence nationale des renseignements. Quelques jours à peine après avoir subi une intervention chirurgicale, inculpé ensuite pour propagation de faux bruits et incitation à la désobéissance civile. Son procès devrait normalement démarrer mercredi devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Mais les proches de Seth Kikuni exigent qu'il comparaisse libre. C'est le sens de l'appel ce matin lancé par Nathanael Onokomba Binchako, le porte-parole de son parti.
Après avoir subi une opération, il a subi plusieurs tortures. Sa santé se détériore. Plusieurs fois demandé une liberté provisoire parce que c'est un citoyen qui n'a rien à fuir de son pays. Un ancien candidat président de la République, ses affaires sont au pays. Ils ont refusé catégoriquement. Et voilà aujourd'hui, Seth Kikuni a été transféré pour des soins que je ne dirais pas appropriés parce que même les conditions de son transfert posent problème. Il a été transféré dans sa propre voiture, la voiture de sa femme. La prison centrale de Makala n'avait pas l'ambulance. On se demande, nous sommes dans quel pays? Pire encore, nous siégeons dans le Conseil des droits de l'homme. Quelle honte pour cette organisation. Nous exigeons la libération du président Seth Kikuni, un bon citoyen qu'il est, et nous interpellons la communauté internationale, voire les organisations de droits de l'homme, de regarder ce qui se passe au pays, parce que s'il nous laisse comme ça, M. Tshisekedi va parfaire son chef-d'œuvre, celui de museler l'opposition afin de ne pas avoir une voix contraire pour parfaire son entreprise de réviser la constitution et de s'interniser au pouvoir.
Nathanael Onokomba Binchako, porte-parole du parti Piste pour l'émergence. En Ouganda, 16 militants de la formation de l'opposant Bobi Wine, condamnés hier par un tribunal militaire pour possession illégale d'explosifs et trahison. Ces membres de la NUP, la plateforme d'unité nationale, qui sont aux arrêts depuis 2020-2021, et une campagne électorale tendue au cours de laquelle plus de 50 personnes avaient été tuées. Leur peine sera normalement connue mercredi. Mais l'avocate du parti a d'ores et déjà évoqué un procès douteux quand Bobi Wine, lui, affirme que les militants ont été contraints de plaider coupable avant de demander une grâce présidentielle. L'objectif est clair, faire contrepoids au G7, aux économies occidentales et pourquoi pas à terme remodeler la gouvernance mondiale. C'est dans sa version élargie que le cercle des BRICS se retrouve pour cela aujourd'hui à Kazan en Russie. 5 plus 5 désormais. Les cinq, dont les initiales forment le nom de l'organisation, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, rejoint cette année par l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Mais au total, c'est une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement qui sont attendus pour ce sommet sur les rives de la Volga, dont le Turc Recep Tayyip Erdogan notamment, membre de l'OTAN, qui a demandé à rejoindre l'Alliance. Alors, pourquoi ces BRICS attirent-ils autant aujourd'hui? Eh bien, selon Pavel Dieff, chef du service des relations monétaires internationales à la Banque de France, il s'agit pour ces pays de peser davantage sur la scène mondiale.
C'est un message qu'ils sont en train de faire passer aussi aux pays avancés, en fait, et aux réformes qui sont en train d'être menées au sein des institutions de Bretton Woods, qui doivent reconnaître leur poids économique plus fort par une représentation adéquate dans les votes, dans le conseil d'administration du FMI ou à la Banque mondiale, qui reste dominée par les pays avancés. Hein. Donc c'est surtout ça le message.
Pour l'Égypte et l'Éthiopie qui ont rejoint les BRICS il y a quelques mois lors du dernier élargissement de l'Alliance, quel a été l'impact économique concrètement?
L'intérêt économique est plutôt faible à l'heure actuelle parce que les BRICS, ce n'est pas une zone de libre-échange. Ça a eu un effet assez faible. L'Égypte est dans une situation assez préoccupante au niveau de ses finances. Donc l'Égypte a toujours besoin de faire appel au FMI.
L'analyse de Pavel Dieff, chef du service des relations monétaires internationales à la Banque de France. Partager les connaissances, transmettre un savoir-faire médical acquis pendant des années de violence dans l'est de la RDC. C'est l'objet de ce déplacement en Éthiopie, dans la région du Tigré, meurtrie elle aussi entre 2020 et 2022 par une guerre civile. Déplacement d'une équipe médicale de la fondation du célèbre docteur Mukwege, l'homme qui réparait les femmes, prix Nobel de la paix. Ces équipes aideront donc leurs homologues éthiopiens à prendre en charge et accompagner les victimes de violences sexuelles lors du conflit. Leur nombre est estimé à plus de 120 000. Clotilde Hazard a assisté à l'un de ces ateliers pour nous.
Devant une vingtaine de professionnels de santé éthiopiens, les médecins experts de la Fondation Mukwege présentent la méthode PANSI, une méthode holistique centrée sur le ressenti et l'expérience de la victime. Marc Ombeni, psychologue clinicien responsable du pilier psychosocial de la Fondation Mukwege.
Les seuls soins médicaux n'ont pas apporté de bonnes réponses à toutes les questions de femmes. Et ensuite, on a intégré le pilier psychosocial. Lui s'occupe de vraiment travailler sur les soins psychologiques, l'accompagnement psychosocial de ces personnes qui ont été victimes de violences sexuelles et pas que, en intégrant également leur communauté, leur mari et les autres personnes qui sont affectées au niveau de la communauté.
Vient ensuite la réinsertion économique, puis l'accès à la justice, un gros manquement en Éthiopie, selon Dominique Vidal-Plaza, responsable des soins holistiques de la Fondation Mukwege.
Ça va prendre encore des années avant que ça arrive ici, mais on reste convaincu que c'est quand même toujours le moment de documenter des cas, de rassurer qu'on a des faits qui sont documentés, qu'il y a des dossiers bien, bien précis, bien détaillés, qui pourraient par la suite donner une opportunité aux survivants d'avoir accès à la réparation. C'est quelque chose qu'on souhaiterait approfondir avec nos partenaires ici.
La Fondation Mukwege assure ensuite un suivi à distance pour s'assurer que les nouvelles pratiques enseignées sont bien mises en place par les professionnels et répondre à leurs éventuelles difficultés. Clotilde Hazard, Mekele, RFI.
Mekele, où c'est le docteur Abraha Gebrexy Aber Alou qui dirige les services cliniques de l'hôpital. Et pour lui, le savoir-faire ne suffit pas, non. Il faut du matériel et des moyens également.
Les centres de santé n'ont pas tous les moyens nécessaires pour dispenser des soins complets. Par exemple, les kits de base pour la dignité, les traitements d'urgence, les antibiotiques oraux. Parfois, nous manquons, par exemple, de médicaments anesthésiants dans la salle d'opération lorsque les patientes doivent subir des opérations gynécologiques. La réponse aux besoins est fragmentée à cause de la faiblesse de notre gouvernement dans la région, qui est une conséquence de la guerre, je pense. Les ressources diminuent, le budget alloué aux hôpitaux est inférieur à ce qu'il était avant la crise du Covid et la guerre dans le Tigré. Tous les prix ont augmenté aujourd'hui. Les professionnels de la santé du Tigré ont beaucoup souffert. Ils ont perdu des membres de leur famille et n'ont toujours pas reçu leur salaire depuis 18 mois. Beaucoup manifestent des problèmes mentaux et le niveau de soins qu'ils peuvent prodiguer s'en trouve inévitablement affecté. Il est donc nécessaire d'apporter un soutien social et psychologique aux travailleurs de la santé.
Le docteur Abraha Gebrexy Aber Alou pour refermer notre journal.